Alors, en fait, le sujet, c'est vous-même qui l'avez choisi. Hein. Donc, cette parabole des talents, c'est une parabole qui est assez redoutable. Donc, c'est un défi pour moi d'essayer de lui donner tout son jus. Hein. Je ne sais pas, mais quand on rentre dans la salle, on est accueilli par cette phrase, là. Qu'as-tu fait de tes talents ? Voilà. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti. On peut le ressentir de beaucoup de manières. On peut aussi le ressentir d'une façon culpabilisante. Oui, qu'est-ce que tu as fait de tes talents, franchement. Donc c'est très, très important d'entrer dans la signification, dans le sens de la parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? Où est-ce qu'elle est située, etc. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Et ne pas oublier, et ça c'est très, très important, que l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et que la culpabilité, vous savez très bien que c'est un poison, hein, ce qu'on appelle la fausse culpabilité. Hein. Et bien, comme c'est une bonne nouvelle, normalement, l'évangile doit nous libérer de cette culpabilité qui empoisonne notre vie. Alors cette parabole, elle est faite pour ça aussi, pour nous libérer d'une certaine culpabilité. Vous allez me dire, oui, mais attention, je ne sais pas comment on peut la lire, parce qu'il y a des mots qui sont très durs, très difficiles, et puis on ne comprend pas trop ce que c'est. Et puis c'est pas très, très, très cohérent, je ne sais pas si vous, on va la lire, vous allez voir, vous allez repérer tout ce qui est un peu bizarre. Alors s'il y a des choses bizarres, c'est normal. Une parabole, c'est une petite histoire anodine, une petite histoire de tous les jours. Bon, on comprend, parce que bon, c'est des situations qu'on vit très concrètement tous les jours. Bon, il y a une petite histoire, c'est un petit peu imagé, c'est un peu vieillot, donc c'est plutôt sympa. Oui, mais il y a aussi, ça, il faut être attentif, quelques petits scandales, petites provocations dans cette parabole. Et c'est important de les pointer, parce que souvent, le sens de la parabole, eh bien, quand elle va jaillir, hein, va jaillir d'abord une première étape, je constate finalement qu'il y a des trucs bizarres dans cette parabole, et donc ça va m'obliger à me déplacer, à approfondir, et à ce moment-là, hein, je vais dire, mais c'est bien sûr. Et la lumière va jaillir. Alors, voilà, c'est dans cette attitude intérieure qu'on peut entrer, c'est-à-dire ne pas hésiter à dire, bon voilà, cette parabole, c'est quand même étonnant, c'est quand même bizarre. On va peut-être même les écrire, là, si vous voulez, après que je l'ai lu, cette parabole, tout ce qui vous semble bizarre. Et puis à partir de là, on verra, en travaillant, en méditant, en lui faisant donner tout son jus à cette parabole, finalement, que c'est une bonne nouvelle. Alors, je lis cette parabole qui se trouve au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Alors, ce chapitre 25, c'est un chapitre très particulier puisque c'est juste avant la passion et la résurrection. Et là, le Christ insiste avec des paraboles pour dire soyez vigilants, réveillez-vous. Et puis, dans cette parabole-là, c'est non seulement une vigilance qu'il faut avoir, mais c'est une vigilance qui donne du fruit. Une espèce d'encouragement à se déplacer, à ouvrir son cœur et à accueillir ce qui va bientôt arriver, c'est-à-dire la passion et la résurrection. Nous sommes dans ce temps justement de préparation à la joie pascale, et donc c'est vraiment ça qu'il faut vraiment accueillir. Hein. Alors voilà cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre, 2, au troisième, un seul talent. À chacun selon ses capacités, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre
et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait 5 talents s'approcha, présenta ses 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. » Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurai retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà. Le verset 30, c'est un acte manqué. avait été supprimé. quand tu as pris le... Je dirais le texte sur AELF, c'est ça, hein. Alors moi, je l'ai rajouté à la main. Je crois qu'il faut lui. C'était pas volontaire. Hein. C'est ce qu'on appelle un acte manqué. Hein. La dernière phrase, elle est quand même un peu inquiétante. Hein. Donc on va travailler là-dessus. Vous en faites pas. Mais enfin, ce que je voudrais, c'est d'abord dire que un talent, hein, eh ben, c'est beaucoup d'argent. Ça peut être éclairant. Hein. C'est beaucoup d'argent. C'est 600 jours de travail. Donc c'est énorme. Puis ça pèse 25 kilos. Voilà. Donc ce qu'on aura... c'est une surprise, on ne dit pas. Hein, donc 25 kilos, il faut creuser hein, pour enterrer un talent de 25 kilos. Alors je vais le mettre, en fait, sur le tableau, tout ce qui vous semble vraiment difficile dans cette parabole. Il y a peut-être des incohérences, il y a peut-être des choses qui sont choquantes. Et on va les marquer. C'est ce que j'avais mis aussi, moi. Hein. Tout ça, je l'ai mis. Hein. J'avais mis les tranchants sans nuance dans son jugement, exigeant, mais peu soucié d'aider ses serviteurs à gérer correctement ses biens. C'est-à-dire que finalement, au niveau de la finance, il n'est pas terrible. Parce qu'on lui confie une grosse somme et il part très longtemps, et il a donné aucune consigne. Et puis après, il revient et voilà, c'est la condamnation ou c'est l'invitation à entrer dans la joie. Bon. Alors, vous voyez bien qu'une parabole, apparemment, c'est une petite histoire qui concerne la vie courante, mais que, finalement, c'est bien plus que ça, c'est une provocation. Voilà. La pire des provocations qu'il y a dans l'Évangile, c'est quand Jésus raconte aux scribes et aux pharisiens la parabole du Samaritain. On ne se rend pas compte, mais à l'époque, le Samaritain, c'était vraiment l'insulte parfaite, quoi. Espèce de Samaritain, c'était vraiment une grosse insulte. Eh bien, Jésus va donner comme exemple de celui qui se fait proche de l'homme blessé sur la route, il va prendre cet exemple-là. d'un Samaritain. Alors, les cheveux se dressent sur la tête de ses auditeurs à ce moment-là. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'une provocation. Et là, c'est un chapitre un peu particulier, puisque c'est un chapitre eschatologique. Alors, c'est un gros mot, hein, eschatologie. Ça veut dire que finalement, ce qui est dit là concerne le présent, ma vie réelle, la vie que je suis en train de vivre là en ce moment, cet instant que je suis en train de goûter. Hein. Et ça concerne aussi le sens de ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, à l'instant. Ça concerne finalement la visée que Dieu a sur l'histoire de chacun, sur l'histoire du monde. Il y a un sens, ça va quelque part, c'est une bonne nouvelle. Donc il y a à la fois l'histoire, hein, ça me concerne, ça est dans ma vie, et puis c'est aussi là où je vais. Hein. Alors si c'est une bonne nouvelle, si Dieu est amour, mais d'accord, eh bien c'est une très bonne nouvelle de savoir que Dieu nous emmène dans quelque part où je serai pleinement heureux. Et je ne peux pas imaginer à quel point je le serai d'ailleurs. Mais c'est déjà maintenant. Vous voyez la tension. C'est dans l'ultime de l'ultime, mais c'est déjà maintenant. C'est-à-dire qu'on va fêter la résurrection du Christ. Cette résurrection du Christ, elle a eu lieu il y a 2000 ans. Elle est donc dans l'histoire, hein, elle est en arrière, mais elle est aussi au présent. Parce que le monde de la résurrection arrive aussi à moi. Elle vient de l'avenir, il arrive dans ma vie, ce monde de la résurrection, cette bonne nouvelle. C'est parce que ma vie est aujourd'hui, à l'instant, est importante, que j'ai à accueillir cette bonne nouvelle du ressuscité. Et donc, finalement, l'instant que je vis là en ce moment, il est lié à ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais qui est un événement qui a valeur d'éternité. Et donc, cet événement arrive aussi dans mon avenir. Il donne sens à ce que je fais et à ce que je vais faire et me dit ce que je vais devenir, la résurrection. Hein, je suis créé par amour de toute éternité. Cet amour, j'en suis pétri, cet amour... j'en vis, j'en respire, et puis cet amour, ben j'y vais, c'est là que je vais. Bon, c'est une bonne nouvelle. Donc n'ayons pas peur, hein, n'ayons pas peur de l'enfer, des grincements de dents. Hein. On va voir ce que ça veut dire. Encore une fois, c'est une parabole. Alors, peut-être des mots, on va expliquer des mots, hein. Puis on verra si on répond aux questions, hein. C'est pas sûr, hein. C'est pas évident, hein. Toutes les questions que vous avez posées, c'est les vraies questions, hein. Bon, d'abord le mot capacité. Hein. Je ne sais pas si vous avez repéré à un moment donné, et là il y a une question qui a été posée là-dessus. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent. Et il explique à chacun selon ses capacités. Alors c'est en fonction des capacités. Tu as beaucoup de capacités, tu en as 5. Tu as des capacités moyennes, tu en as 2. Tu n'as pas beaucoup de capacités, tu en as 1. C'est super injuste, là, d'accord ? Alors ça dépend. Qu'est-ce que c'est qu'une capacité ? Est-ce que c'est, je sais pas, savoir jouer d'un instrument de musique, faire chanter les gens c'est ça, la capacité ? Non, c'est pas ça, bien sûr. Bien sûr que c'est pas ça. Quand on regarde l'Évangile, on voit bien Jésus accueille qui, finalement ? Mais d'une façon incroyable, parce qu'il y a un avant et un après. Zachée, par exemple, moi je suis sûr qu'il a reçu 5 talents. Hein. Pourtant, Zachée, c'était pas un mec bien. C'était un voleur. Il était méprisé de tout le monde, il était petite taille, complexé, tout ce qu'on veut. Il était grand chef des collecteurs d'impôts. Il devait être un peu dictatorial. Hein. Et bien voilà, qu'est-ce qu'il a. Pourquoi il va recevoir 5 talents, ce Zachée ? Pourquoi ? Et bien je dirais parce que justement, il monte sur un arbre, il monte dans un sycomore, hein. Et puis il cherche Jésus, il l'a vu, il a un gros mépris de lui-même d'ailleurs parce qu'il n'est pas bien dans sa peau, et puis il cherche Jésus, quoi, il cherche. Et c'est Jésus qui va le trouver. Hein, il m'a occulté les yeux, puis il m'a dit, tiens, descends, Zachée, de ton arbre, je vais habiter chez toi. Pourquoi il va habiter chez lui? Parce qu'il y a du boulot à faire, hein, c'est vrai, on est d'accord. Mais il y a aussi une capacité à accueillir ce que Jésus va lui donner. Hein, il a une capacité, c'est-à-dire qu'il a un cœur qui est ouvert. Donc ça n'a rien à voir avec les capacités humaines, c'est cette disponibilité du cœur, c'est cette ouverture du cœur, c'est cette soif. Voilà, on a chanté ça tout à l'heure, hein. On a chanté la soif, oui. Il faut qu'on ait soif, hein, d'accueillir bien cet amour de Dieu. Hein, il a soif. Ça ne satisfait pas ce qu'il est en train de vivre, Zachée. Il y en a deux qui ont bien dû, il y en a un autre qui a bien dû recevoir deux talents, c'est l'aveugle-né. Oui, moi, je mettrais plutôt 5 talents pour l'aveugle-né et 2 pour Zachée. Parce que l'aveugle-né, c'est quand même incroyable. Il est mendiant. C'est un pro de l'accueil, hein, puisqu'il mendie. Il a de la place pour accueillir. Il est dépendant, voilà, complètement dépendant. Et puis Jésus, il n'a rien demandé à Jésus. Hein, c'est Jésus qui le voit et puis qui dit, voilà, comment je vais manifester les œuvres du Seigneur. Et il lui met la boue sur les yeux. Enfin, avec sa salive et la terre, il fait de la boue. Il met sur les yeux. Il rajoute de la cécité à sa cécité. Et puis il lui demande, comme ça, d'aller carrément à la piscine de Bethsaïda. L'envoyé. Hein. Il l'envoie là-bas, ça veut dire envoyé. Il l'envoie là-bas. Moi, j'ai fait le chemin. Le temple, la piscine, si on ferme les yeux, on risque de trébucher plus d'une fois. C'est très long, très, très dangereux. Cet aveugle-né, il prend des risques, le risque de la foi, parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer, il n'est pas encore guéri, etc. Et à la piscine, il va se retrouver guéri. Et après, ça va devenir un prophète. Il va s'opposer aux scribes, aux pharisiens. Il va manier l'ironie avec beaucoup de dextérité, etc. Là, il a une capacité à l'accueil de quelque chose qui ne vient pas de lui. Et il va reconnaître Jésus après, quand il va le revoir, et il va comprendre que c'est lui le temple, il va se prosterner, il va adorer. Voilà. Donc c'est une capacité, c'est pas rien. Le bon larron, il faut le faire, hein. Il est au pied, à côté de Jésus, sur la croix, condamné, il va mourir, et là il accueille. Et c'est le premier béatifié de l'histoire de l'Église, par Jésus lui-même, puisque Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. C'est quoi la capacité? C'est pas les dons, c'est beaucoup, beaucoup plus que cela. J'ai juste une petite histoire à raconter. Le journal Ombre et Lumière, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, Ombre et Lumière, c'est Jean Vanier avec Marie-Hélène Mathieu. Alors, il m'avait demandé de faire un article sur fragilité et sacerdoce. Il m'avait demandé de venir au comité de rédaction. Et là, il y avait plein de monde, etc. On a parlé, ils sont très sérieux pour penser un article, etc. Et il y en a un qui m'a raconté, hein, parmi le comité de rédaction, qui m'a raconté l'histoire de sa fille. Hein, sa fille qui est handicapée. C'est une trisomique. Eh bien, cette jeune, elle a 12 ans, hein, voit arriver à la maison un prêtre en grosse déprime, on va dire. Eh bien, la gamine, elle voit tout de suite que ce prêtre, finalement, est un peu mal en point, quoi. Hein. Alors que ce n'est pas son habitude du tout, hein, elle est très autonome, etc. Elle va s'occuper de ce prêtre, voilà, en détresse, en lui prodiguant, voilà, des soins. Alors c'est quoi les soins? Ben, elle va être sympa avec lui, elle va être avec plein de gestes d'affection, d'amitié, elle va même danser avec lui. Enfin vraiment, ces soins que cet enfant va apporter, cet enfant véritable thérapeute, eh ben, donne tout son fruit, parce que c'est rendu à la vie son sacerdoce que ce prêtre peut repartir en mission. Voilà, quelqu'un qui a une grande capacité.
cette chaîne. Bon, alors l'itabacée, alors dire, ça concerne les moi je suis pas trisomique, je suis pas zaché, je suis pas aveuglonais, alors moi ça me concerne pas, alors j'ai pas de capacité. Attention, comparaison, hein, c'est. On a à Saint-Leu, on a la sœur Anne qui a une formule de choc. Dans le coup, j'ai une sœur, c'est super, elle dit comparaison, piège à con. Voilà, hein, alors, mais c'est quand même pas mal de se dire comment ça se fait que je suis concerné par ça si je me sens pas fragile. Bon, eh bien, l'itabacée a une réponse, elle. Parce qu'elle a perdu son fils, et donc elle a travaillé ça énormément. Et elle aborde le sujet de la fragilité en préférant le terme de fragilisation. Fragilisation. Pourquoi ? Parce que un jour ou l'autre, chacun va se confronter à cette possible fragilité. Alors, nous comprenons mieux qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui sont normaux, hein, et ceux dont le métier est d'être fragile. Fragilité permanente et visible pour certains, je pense là aux handicapés mentaux. Moi, je travaille dans un hôpital psychiatrique, donc c'est visible, hein, cette fragilité-là que je côtoie. Mais aussi fragilité en devenir, l'un pour d'autres, hein, fragilité humaine, souvent très visible, mais fragilité spirituelle moins évidente. Enfin, nous avons tous en commun cette fragilité de l'être. Alors, quelle réponse nous allons apporter à cette question ? Ben, peut-être simplement de dire « Seigneur, Seigneur, augmente en nous la foi pour que nous puissions accueillir les talents que tu nous donnes. Ben, » cette capacité, elle est à demander. Ben, « Je voudrais accueillir les talents que tu veux me donner. » Il y en a 5, il y en a 2, il y en a 1. Je voudrais pouvoir les accueillir, Seigneur. Donc c'est plus une disponibilité à l'accueil. Quant aux talents, on dit au Seigneur, oui, je voudrais accueillir des talents, mais si je ne sais pas ce que c'est, hein, ça peut être dangereux. Hein, faire attention. Hein. C'est quoi ces talents ? Alors d'abord, c'est des choses qu'il n'avait pas. On est d'accord. Ça ne leur appartient pas en propre. Hein. J'ai dit que c'était énorme comme somme d'argent, et en plus, le maître dit, c'est peu de choses. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Non, c'est quelque chose de très précieux. C'est incroyable. Et c'est important, c'est vital. Je ne crois pas mes yeux. Comment ça se fait que le Seigneur va me donner autant de richesses ? Et puis, c'est aussi là ma responsabilité. Alors, justement, responsabilité, important de la situer, parce que sinon, on est dans la culpabilité. Je suis responsable de ce que le Seigneur veut me donner. Alors, qu'est-ce qu'il veut me donner ? Alors, je vais faire un petit témoignage personnel. On va couper le... Hein ? Non, je plaisante. c'est ma conversion. Ma conversion, voilà. Il y a très, 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 très longtemps, c'était dans un monastère, c'est le monastère de Soligny-la-Trappe. Alors, c'est pas des bénédictins, c'est des trappistes, hein, c'est plus rude, hein, mais voilà. J'étais allé là-bas un peu perdu, comme l'aveugle né, quoi. Ayant vraiment toute une révolte en moi, une colère. Voilà. Je ne vous raconte pas ma vie, mais c'était ça, j'arrive dans cet état-là. J'avais laissé tomber la foi depuis mon adolescence, j'avais 25 ans peut-être. Et j'arrive dans ce monastère, cœur écartelé. Quand on dit écartelé, on peut dire ouvert aussi en même temps, quelque part. Hein. Et là, je rejoins ce que je disais sur les capacités, j'étais en capacité. Hein, j'étais en capacité. Et cette conversion, elle a été brutale. Elle a changé complètement ma vie. Ça s'est fait dans l'Eucharistie. D'abord, il y a le frère Hôtelier qui m'a amené devant Saint-Sacrement, il s'est agenouillé devant Saint-Sacrement. Il y a quelque chose qui est revenu de mon enfance, etc. Et puis dans la messe, je ne voulais pas y aller à la messe. Je voulais travailler, faire passer un concours. Puis j'y suis allé à la messe. Et au moment où le prêtre dit « Heureux les invités au repas du Seigneur », j'ai pas les mots pour le dire, ce qui s'est passé dans mon cœur, mais j'ai fait l'expérience de la transcendance de Dieu, de la grandeur de Dieu sur l'hostie qui était présentée au peuple. Et je voulais aller communier, et puis je ne suis pas allé, parce que bon, pour des tas de raisons, qui étaient justes d'ailleurs. Et revenu de Saint-Denis-la-Trappe, j'étais à Caen, première église venue, église Saint-Pierre, et j'étais à fleur de peau, hein. Fallait vraiment qu'on m'accueille. Hein. Je suis tombé, je suis allé professer, j'ai fait un sacrement de réconciliation, et je suis tombé sur la personne qu'il fallait, un ancien évêque d'Afrique noire qui m'a accueilli comme un missionnaire peut le faire. Et là, j'ai vraiment retrouvé justement cette capacité à accueillir tout ce que le Seigneur voulait me donner. Et ma vie a complètement changé. Alors qu'est-ce qu'il m'a donné ? Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné cette vie pour les autres. Pour moi, bien sûr, mais surtout pour les autres. C'est-à-dire que ce qu'il m'a confié là, eh bien, je m'en suis senti responsable. Il faut que j'en fasse quelque chose. Alors, mon frère jumeau dit que j'ai mal tourné à partir de ce moment-là, hein, puisque je suis devenu religieux, puis prêtre. Et à l'occasion d'une remise de médaille récemment à Saint-Leu, j'ai ma belle-sœur, qui est un fin politique, a été chargée, au nom de la République, de me donner cette médaille. Et j'étais très étonné parce que, comme on était très proches, toute ma famille, tous, ils ont vu, mais moi, je m'en étais pas vraiment rendu compte, à quel point j'avais changé. Donc cette richesse que le Seigneur m'a donnée, c'était une richesse intérieure, certes, mais c'était une richesse qui était visible, quoi. Hein, c'est une richesse pour les autres, puisque les autres se sont rendus compte. Alors, là, on comprend bien, finalement, que le talent, la capacité, c'est justement cette rencontre avec plus que moi-même, c'est-à-dire l'amour de Dieu, ou l'amour de la vie, ou l'amour de la beauté, ou l'amour... Enfin, c'est très important de voir comment Dieu passe, hein, à travers la vérité, la beauté, la bonté, hein, tout ça, c'est des chemins de Dieu. Et bien, c'est cette rencontre-là. C'est ça, les talents. Le beau, le vrai, le grand, la vérité, la bonté, l'amour, la lumière. Enfin, c'est ça, hein, les talents. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais alors, le serviteur qui n'a reçu qu'un talent, qu'est-ce qui l'empêche d'accueillir cette lumière, cette richesse, cette beauté? Pourquoi? Pourquoi il l'enfouit dans la terre? Et c'est un gros boulot, hein, 25 kilos enterré, c'est un gros boulot. Pourquoi il l'enfouit, le don qui lui est confié? Pourquoi il choisit la mort par peur de la vie? En fait, c'est ça qu'on peut dire. Parce que le talent, c'est la vie, en fait. La vie pour l'autre. Hein, parce qu'il doit travailler pour son maître, il doit innover, faire du neuf, aller à la rencontre, comprendre les événements, anticiper, s'ouvrir, faire confiance en celui qui vous fait confiance. Pourquoi n'y arrive-t-il pas? À cause de la peur. Oui, mais est-ce qu'on est responsable de nos peurs? Suis-je responsable de mes peurs qui me paralysent? Alors d'abord, d'où viennent-elles? C'est très important de nommer ces peurs. Parce que c'est une manière de les mettre devant soi. De quoi ai-je peur? La peur me pousse à enterrer mes forces de vie. Refouler, enfouir, tue la vie. Eh bien, c'est le mouvement contraire qui donne la vie. De notre terre intérieure, doit jaillir le dynamisme qui porte la vie. Et c'est toute la question de la vie intérieure. nous avons une profondeur en nous, nous avons des peurs, des obstacles, des empêchements, eh bien, c'est comme un puits, il y a des pierres, il faut nommer ces pierres pour pouvoir les enlever. C'est l'expérience de l'Itabassé, elle parle de ça. L'Itabassé qui est une juive hollandaise, qui n'est pas... Est-il sous, j'ai dit quoi? Ah non, non, pardon, c'est une protestante, elle est toujours en vie, elle n'est pas morte. Oui, est-il sous, une juive hollandaise, qui s'est préparée à la barbarie, qui arrivait, elle sentait bien que sa liberté était en train de réduire, était en train de réduire comme peau de chagrin, et elle a musclé sa liberté intérieure. Et elle parle de ce puits, cet amour qui est présent en moi, empêché, et tout son travail a été d'enlever ces obstacles, ces pierres, tout ça. Voilà, c'est ça nos peurs. Alors, juste un petit texte que je vous propose, c'est en 2004, j'étais à Saint-Leu, tout ça 2004, ça ne vous dit rien, pour certains peut-être. Tout ça 2004, il y a eu une espèce de grosse fête à Paris, parce que les quatre cardinaux de quatre capitales, ou cinq, je ne sais plus, s'étaient mis d'accord pour venir à Paris, après c'était à Bruxelles, ouais, pour justement pour animer la ville à travers des initiatives qui venaient des paroisses. Alors nous, à Saint-Leu-Saint-Gilles, on travaille beaucoup avec les gens de la rue. Alors on avait monté une pièce, on pas que ça, mais on avait monté une pièce de théâtre avec des gens de la rue. L'ami Jules, peut-être que Jean-Noël se souvient de l'ami Jules. Hein. Si c'était à refaire, je n'en ferais pas. C'était très compliqué, ne serait-ce que pour les répétitions, parce que le soir, beaucoup étaient dans un autre monde que le nôtre. Et puis, la mémorisation des textes et tout ça, c'était pas très simple. Mais c'était parfait, et il y a eu un petit miracle qui s'est passé. Alors le texte a été écrit à partir de toutes les perles qu'on entendait, on a recueilli ce que moi j'appelle les perles de la rue. Et puis il y a un auteur qui s'est mis au boulot, qui a fait un texte qui s'appelle l'ami Jules. L'ami Jules, son histoire, c'est quelqu'un qui est dans la rue, qui est quelqu'un de très aimé par tous, parce qu'il est bon, etc. Et l'ami Jules se fait tuer, c'est une histoire, etc. Et tout le monde est en révolte, on veut casser la figure, voilà, tout le monde. Voilà. Et à un moment donné, il y a une scène qui est très très belle, à la fin, ils veulent faire une fête à Jules, célébrer Jules, tout ce que Jules leur a apporté, etc. Donc ils veulent faire une fête. Mais le problème, c'est qu'ils se disputent, mais vraiment comme des chiffonniers, quoi. Et ils n'arrivent pas à faire organiser la fête. Hein. Ils n'ont pas le sens de l'organisation du mec pour organiser des événements et des célébrations. Et puis finalement, ça se dispute tellement qu'on ne sait pas trop comment ça va terminer. Et parce que le désordre intérieur de chacun éclate, une grosse bagarre. Découragement après, accablement. Et il y a un des personnages qui tente d'ouvrir une brèche. Et si Jules attendait qu'on lui donne ce qu'on a de mauvais? C'est une drôle d'idée, hein, franchement. C'est alors que tout bascule. Cette proposition éclate dans les consciences comme une illumination pour une nouvelle naissance. Je veux jeter mes vieilles loques, la peur qu'on ne m'aime pas, dit l'un. J'ai compris, c'est le grand nettoyage de printemps, dit l'autre. Dans un grand élan du cœur, chacun, à tour de rôle, va remettre ses vieilles loques, donner ses peurs. Peur de vivre, peur de mourir, peur des autres, peur de souffrir, peur de toi, Dieu. La fête est alors possible. La pièce se termine sur cette dernière réplique. J'aime beaucoup cette réplique. Même une vieille clémentine bosselée, si tu la creuses autour de la mèche, que tu mets de l'huile et que tu l'allumes, elle rayonne de lumière. Voilà. Cette phrase est pour moi parole de sagesse. Oui, nous pouvons être libérés de l'image négative que nous avons de nous-mêmes. Nous pouvons nous laisser creuser, nous laisser approfondir, nous laisser enrichir de la vie, de de la vie que Dieu veut mettre en nous pour que nous puissions rayonner sa lumière. Alors je reprends les peurs, parce que c'est ça finalement qu'il s'agit, hein, les peurs. Qu'est-ce que dit cet homme, hein, ce troisième serviteur ? Je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai l'impression que ça veut dire la même chose. Hein. Là où tu n'as pas semé, tu ramasses, tu moissonnes, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. Donc il insiste, hein, il insiste beaucoup là-dessus. Eh bien, il y a le maître. Alors c'est une parabole, ça ne veut pas dire qu'il faut adéquatement. C'est, une parabole, ce n'est pas une allégorie. Hein, ben, une allégorie, c'est la vigne, par exemple. Hein, chapitre 13 de Saint Jean. La vigne, c'est le vigneron, c'est mon père. La vigne, c'est moi. Vous, vous êtes des sarments. Donc ça, c'est une allégorie, c'est clair. Une parabole, pas du tout. Une parabole, on ne peut pas dire que telle personne est le Seigneur. Il y a quelque chose dans ce qui dit quelque chose du Seigneur. Voilà, on peut dire ça. Et surtout dans les relations, et surtout dans la provocation. Donc ça dégage un peu les bronches. Le Christ, il moissonne pas là où il n'a pas semé, etc. On est d'accord avec ça. Hein. Alors, le serviteur qui n'a reçu qu'un talent a peur du maître. C'est vrai. Il a enfoui dans la terre. Il a enterré le don. Il a enterré la vie, quelque part. La vie pour l'autre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cet enfouissement dicté par la peur procède d'une petite idée de Dieu. Hein, c'est très réducteur, hein, l'idée qui se fait de Dieu, enfin de son maître, mais nous on peut le transposer à Dieu en prenant beaucoup de précautions. Il a une petite idée de l'homme, hein. L'homme est capable de Dieu, dit saint Augustin, mais capable de Dieu, si c'est être capable de Dieu, d'un Dieu qui moissonne là où il n'a pas semé, qui ramasse là où il n'a pas répandu le grain, c'est réducteur, c'est petit, hein. Quelle idée de Dieu j'ai, moi? Est-ce que c'est le Dieu projeté de mes peurs ou est-ce que c'est le vrai Dieu, celui révélé par Jésus-Christ, capable de mettre un comble à son amour en nous aimant jusqu'à l'extrême? Ça, c'est le début du chapitre 13. Quand ce fut le temps pour Jésus de passer de ce monde à son Père, il mit un comble à son amour, j'aime bien cette traduction, il mit un comble à son amour et les aima jusqu'au bout. C'est quoi le mettre un comble à son amour? C'est donner sa vie jusqu'à la folie de l'amour, jusqu'à la folie de la croix. Eh bien, ça, est-ce que c'est le Dieu auquel je crois? Un Dieu qui est capable d'aimer inconditionnellement jusqu'à l'extrême, jusqu'à la folie, un amour infini, un amour incroyable, un amour qu'on ne peut pas imaginer. Et cet amour, il est dans notre vie au présent. C'est pas ça va s'arranger après notre mort, c'est déjà maintenant. Il y a des semences de résurrection, il y a des semences de vie qui nous sont données parce que Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous rejoindre dans toutes nos détresses. Dans toutes les détresses du monde, il est présent. Je voudrais juste vous donner un petit exemple. Je ne sais pas si j'ai encore combien de temps. Juste un petit exemple. J'ai travaillé comme aumônier dans une prison psychiatrique. Donc c'est quand même un peu difficile. Pour avoir quelques repères en psychiatrie, parce que ça peut être utile. Mais j'ai reçu une leçon dans cette prison psychiatrique par un psychotique maniaco-dépressif, sans mettre d'étiquette, mais là, il était vraiment très malade. Et il avait tiré sur ses parents, enfin, un truc de fou, quoi. Il était vraiment pas fréquentable, voilà, entre guillemets. Eh bien, Christian, Christian avait tout cassé dans sa cellule. Et on l'a mis au Mitard. Le Mitard, c'est la prison de la prison, c'est au sous-sol. C'est vraiment un cul de basse fosse. Et je demande au brigadier chef si je peux aller le voir. Le brigadier chef a dit, il n'est pas question que j'ouvre la porte du Mitard. Vous pouvez lui parler à travers le Judas. Le Judas, donc, il est à 30 cm au-dessus du sol. Et j'ouvre le Judas et je suis à genoux, forcément. Et puis lui aussi, derrière. Et puis il me dit, je voudrais le sacrement de réconciliation. Il est un peu mieux, j'ai l'impression. Alors, je donne le sacrement de réconciliation. Alors, ça faisait un peu comme un confessionnal, hein, puisqu'il y avait la porte du Mitard. Ils étaient tous les deux, enfin d'autres fois, confessionnel. Et quelques jours après, je reviens et je demande au brigadier chef si je pouvais aller le voir. Il me dit oui, il va mieux. Alors, il m'ouvre la porte, parce que nous n'ouvrons pas la porte du Mitard, c'est clair. Et là, j'avais amené l'Eucharistie. Ben quand je lui ai donné l'Eucharistie, je me suis rappelé que Jésus, lui aussi, était allé au Mitard. Et qu'il continue à venir dans les culs de basse-fosse, comme ce Mitard de la prison de Château-Thierry, et qu'il continue aussi à venir dans nos Mitards à nous, dans cette psychologie blessée. Il continue, il ne cesse. Alors nous, on a toujours envie qu'il vienne nous visiter dans tout ce qu'on a de bien. Voilà. Mais lui, non, il a envie aussi, bien sûr, il est content, hein, on a des choses très belles à lui montrer, mais il a envie aussi de nous visiter dans nos Mitards. Hein. C'est cet amour qui va très très loin. Et pourquoi il veut nous visiter? Eh bien, le Seigneur ressuscité veut nous livrer quelque chose. Et ce, jusque dans nos Mitards. Le Seigneur veut nous livrer sa joie si pure et si sainte. Entre dans la joie de ton être. Et la joie du Seigneur, c'est d'abord le fruit de son union au Père. Jésus veut que sa propre joie passe dans le cœur de ses disciples et qu'elle revienne, et qu'elle devienne leur, et ce, jusque dans le malheur. Voilà. Ce qui est important pour nous ce matin, il me reste combien de temps là? Je ne sais pas trop.
Jusqu'à moins de quart.
D'accord. Alors je voudrais terminer alors sur Éphésiens 5. Alors Éphésiens 5, c'est ma botte secrète, hein, si vous voulez. Hein. Parce que c'est un texte difficile. Moi j'aime bien les textes difficiles parce qu'il faut aller vraiment approfondir pour leur donner encore une fois tout leur jus. Éphésiens 5. Ça commence bien. Ça, il semble que là, saint Paul, il exagère, hein, fait une liste de tous les péchés possibles et imaginables. Et puis après, il donne une perle. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Voilà. Alors, d'une manière. Donc très abrupt, saint Jean parle dans le chapitre 5 de sa lettre aux Éphésiens de la lumière. C'est un texte très centré sur la lumière. Il dit, il invite plutôt ses lecteurs à imiter Dieu, à se conduire en enfant de lumière. Comment imiter Dieu ? Pour répondre à cette question, il oppose les ténèbres dont l'homme est capable à la lumière que Dieu veut livrer dans le cœur de ses enfants. Ténèbres et lumière ne peuvent que s'exclure, et c'est ce que l'on croit comprendre dans la démonstration. Or, dans cette tension arrive une perle précieuse comme un cadeau à recevoir. Saint Paul dit, quand tout cela est dénoncé, alors juste tout cela c'est quoi? C'est toute une liste qui fait de péchés, enfin il y a vraiment une liste un peu costaud, c'est gavant même, hein, quelque part.
on dit, mais où est-ce qu'il veut en venir? Après qu'il ait fait cette liste, il va dire quand tout cela est dénoncé. Alors dénoncé au sens où nommé, quand j'en ai pris conscience et quand j'ai mis des mots là-dessus pour les mettre devant, quand tout cela est mis en lumière, hein, en mots, en lumière, et ça c'est le contraire de l'enfouissement dont on a dit tout à l'heure, hein, du refoulement, hein, quand on trouve les mots pour dire ces ténèbres, quand on les met à distance pour les regarder, et quand on espère la miséricorde de Dieu, on passe de la culpabilité, poison de l'âme, au repentir. Chemin de confiance et de libération en Dieu. Alors un discernement est important à ce niveau-là. Parce qu'il faudrait voir qu'est-ce qui est de l'ordre de ma responsabilité et qu'est-ce qui est de l'ordre de ma blessure. Le mal que je fais, dont je voudrais me défaire, hein, voilà, j'en veux pas. Et qu'est-ce qui est de l'ordre de ce que j'ai enfoui dans la terre, enfoui dans le déni, neutralisé par mes mécanismes de défense, en attente d'être vraiment regardé, assoupli. Et je dirais, le pauvre en moi. Les Jungiens, ils parlent de l'ombre. L'ombre, c'est pas négatif, justement. L'ombre de moi-même que j'ai laissé végéter, survivre, mais qui cherche vraiment à exister, silhouette famélique cachée au creux de mon aveuglement, cherchant la lumière de ma conscience, et plus encore, car en attente, en espérance, de la lumière douce et miséricordieuse de Dieu. Eh bien, saint Paul dit que dans cette lumière, tout devient lumière. Le mal que nous faisons, les actes dont nous ne sommes pas fiers, appelons les fautes, elles sont souvent les conséquences de notre ombre, non reconnues, non accueillies. Eh bien, reconnaître positivement notre ombre, tout en reconnaissant nos fautes, ce qui est négatif, hein, ce qui est à changer, est un vrai travail de lucidité et d'humilité. Exposer notre ombre à la lumière, là, c'est un acte de foi. Le fait de nommer mes fautes, d'exposer mon ombre à la lumière, sous le regard illuminateur du Christ, permet le surgissement de la lumière. Nommer, ouvrir à la lumière de Dieu, c'est passer des ténèbres à la lumière. Se transfigure alors tout ce que j'ai reconnu, nommé et offert au Seigneur. C'est une véritable transfiguration, œuvre du Seigneur, véritable alchimie divine qui transforme le plomb de nos lourdeurs en or. Cet or qui est la sainteté que Dieu veut pour chacun d'entre nous, qui est grand ce mystère. Juste une précision sur la sainteté. La sainteté, ce n'est pas la perfection. La sainteté, c'est cette capacité à accueillir un trésor. Et beaucoup de saints du calendrier, on essaye effectivement de montrer des modèles un peu parfaits, mais on sera très étonné de voir tous les saints que nous avons côtoyés. Moi, je pense souvent à ma grand-mère, qui n'est pas sur le calendrier liturgique, hein, mais qui pour moi une sainte, parce qu'elle a su accueillir. Ça ne veut pas dire qu'elle avait forcément toujours bon caractère, mais elle a su accueillir. Nous déjà, c'était énorme. Hein, et puis, justement, parce qu'elle était disponible, accueillante à ce trésor que Dieu voulait mettre en elle. Son talent, c'était sa bonté, son amour, sa capacité, justement, à aimer.
Si certains avaient leur Bible, tu peux redonner peut-être la référence du texte dans l'Évangile.
L'Évangile de l'Éphésiens.
La parabole des talents.
Ah oui, alors pour la parabole des talents, on n'a pas répondu à toutes les questions. Hein. On va essayer, on n'est pas sûr d'y arriver. Mais alors, peut-être qu'on peut se dire entre nous qu'on peut relire le texte, essayer de voir s'il y a quelque chose qui a bougé. Alors, les références, c'est Matthieu 25. Alors, Matthieu 25, c'est là aussi, il y a justement ce jugement où on sépare les boucs des brebis. Hein, c'est aussi un texte un peu pas facile. Hein.
Et en fait, le critère du jugement, c'est l'amour. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous m'avez visité, etc. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que cette parabole est dite. C'est vraiment une invitation à être dans cette disponibilité pour accueillir plus que nous-mêmes et le donner à travers nous aux autres. Donc c'est pas finalement le grincement de dents, qu'est-ce que c'est sinon cette incapacité que on ressent quand on a du mal à aimer, quand il y a cette peur qui nous paralyse, quand on a mal au ventre parce qu'on n'arrive pas à sortir justement cette lumière que nous avons en nous. Et c'est pas des personnes qui sont condamnées dans les paraboles, c'est des tendances que nous avons en nous. Nous sommes à la fois le premier serviteur, le deuxième, le troisième. C'est des zones en nous qui sont à convertir, à évangéliser, à ouvrir, pour que nous puissions pleinement accueillir l'amour de Dieu, pour entrer dans ce chemin de sainteté dont j'ai parlé tout à l'heure.
Matthieu 25, c'est quoi 25?
Alors, Matthieu 25, 14, et n'oubliez pas le 30, hein, où il y a les grincements de dents.